Radio Cité Genève.
Cité Culture. Épiphane Monfaux.
Bonjour à toutes et à tous, nous prenons la direction du Musée d'Art et d'Histoire de Genève qui présente jusqu'au 29 septembre prochain une exposition inédite dédiée à l'artiste Irène Zurkinden qui a vécu entre 1909 et 1987. L'exposition dévoile pour la première fois une sélection de dessins inédits de la Baloise en cette année de célébration du 100e anniversaire du Manifeste du Surréalisme d'André Breton. Bonjour Marie-Ève Célio-Scherer.
Bonjour.
Commissaire de cette exposition, nous sommes au MAH, donc au Musée d'Art et d'Histoire, mais dites-nous le lieu où se tient cette exposition.
Donc nous nous trouvons au deuxième étage du Musée d'Art et d'Histoire de Genève, dans trois cabinets dédiés aux arts graphiques.
Et pour nos auditeurs auditrices, redites-nous ce que vous exposez en ce moment, en ce lieu, et rappelez-nous le contexte.
Nous exposons en ce moment une sélection d'œuvres graphiques, mais pas uniquement, de l'artiste Irène Zurkinden. Cette sélection se fait faite sur une chronologie, essentiellement les années parisiennes, c'est-à-dire 1929-1939, et en médium, essentiellement des œuvres graphiques, mais pas uniquement.
Comment cette exposition s'inscrit-elle dans le 100e anniversaire du Manifeste du Surréalisme ?
Irène Zurkinden est une artiste qui est née donc à Bâle le 11 décembre 1909. Elle a étudié à Bâle à la Kunstgewerbeschule, donc à l'école des arts appliqués de Bâle dans le domaine de la mode. Et c'est une artiste qui rêvait de se rendre à Paris. En 1929, donc à 20 ans, elle obtient une bourse qui lui permet de se rendre à Paris et d'étudier à l'Académie de la Grande Chaumière. Donc cette académie est une académie qui avait été créée au début du XXe siècle par une artiste aussi d'origine suisse, qui a vu des artistes, élèves, enseignants, y enseigner de façon tout à fait libre, novatrice. Et parmi eux, nous avons Augusto Giacometti, ou Kurt Seligman, ou Irène Zurkinden. Donc Irène Zurkinden se retrouve à Paris, dans cette académie de la Grande Chaumière qui est située à Montparnasse, dans un milieu qui est en train d'être effervescent, le milieu des avant-gardes, et elle s'imprègne de ce milieu. Elle y rencontre des artistes, des écrivains, des musiciens, les gens donc du monde intellectuel et de la fête de Montparnasse.
Comment ici les œuvres graphiques exposées reflètent-elles les aspirations et les thèmes du surréalisme ?
Irène Zurkinden, quand elle est dans ce milieu montparnois, rencontre des figures donc protagonistes du moment, comme Kiki de Montparnasse ou Thérèse XIII, mais aussi Man Ray, Marcel Duchamp, Max Ernst. Elle portraitise par exemple Man Ray, elle se fait portraitiser par Man Ray, et en cela, on voit que à travers ses dessins, ses croquis, ses écrits, elle est imprégnée aussi du monde surréaliste par le jeu des mots, par l'appel à l'inconscient, par des descriptions de rêves et de cauchemars. Donc tout ce que le surréalisme a prôné, donc c'est d'aller au-delà du monde de la raison en faisant appel au monde onirique, au monde du rêve. Et on sent aussi qu'elle a, dans ses carnets, dans ses écrits, qu'elle fait référence à des jeux de mots propres aussi au monde surréaliste.
Est-ce qu'il y a un parcours type ?
Alors, l'exposition n'a pas de parcours type. Il n'y a pas un début et une fin. Il y a trois thèmes que l'on peut prendre dans un sens comme dans l'autre. Il y a trois cabinets, donc nous avons choisi trois thèmes, un par cabinet. Le premier thème, c'est le monde donc des avant-gardes, où on va pouvoir voir des dessins qui représentent donc les protagonistes de ce moment, Kiki de Montparnasse ou alors Man Ray, son ami d'enfance, de jeunesse, Meret Oppenheim.
Justement, on se trouve dans le cabinet numéro 1. Est-ce que nous pouvons, pour les auditeurs auditrices, décrire ce que nous voyons ?
Alors, dans ce premier cabinet, nous avons notamment un dessin où l'on voit une femme nue accompagnée d'un violoncelle et des mots Kiki, appelé Q-U-I et non pas K-I-K-I, certainement en référence à Kiki de Montparnasse, dont la célèbre photographie de Man Ray qui s'intitule Le violon d'Ingres est sans doute une référence pour ce dessin. Nous avons également différents croquis où l'on reconnaît très clairement Meret Oppenheim, donc une artiste qui, elle, n'a pas eu besoin d'avoir besoin de son art pour vivre et qui fait partie des protagonistes du monde surréaliste féminin, une des rares. On a également une feuille où l'on reconnaît trois hommes hommes. À coup sûr, nous avons sur la droite un portrait de Man Ray. Ensuite, au centre, on a pensé dans un premier temps qu'il s'agissait de Marcel Duchamp, mais on opte plutôt pour Benjamin Paré. Et sur la gauche, Marcel Nol, qui a été dans un premier temps considéré comme Stravinsky, mais maintenant, après quelques comparaisons, dessins, photographies, on opte plutôt pour Nol.
C'est une œuvre qui est faite de crayons, graphite et de gouache.
Oui, absolument. Gouache, aquarelle et crayon. D'autres sont à la plume, à l'encre et certains au graphite. Donc, on a des différents médiums. On a également un carnet. Le carnet, donc il y a eu plusieurs carnets qui ont été tenus par Irene Zurkinden. Ces carnets sont à la fois remplis de croquis et d'écrits. Et là, on a opté pour un carnet de 1931 dans lequel on voit qu'Irene Zurkinden s'intéresse à la mode. Elle y montre des différentes femmes et hommes et a très clairement un regard sur leurs habits. Donc, nous rappelons sa formation comme dessinatrice de mode. Il est aussi possible de visualiser ces carnets grâce à un iPad que le visiteur peut parcourir à son gré, ce qui permet donc de mieux entrer dans le monde riche d'Irene Zurkinden.
Un carnet qui a été scanné et téléchargé dans l'iPad. Donc nous quittons le premier cabinet qui est réservé, qui est consacré à la vie avant-gardiste parisienne d'Irene Zurkinden. Nous entrons à présent dans le deuxième cabinet, qui est consacré, lui, au milieu surréaliste.
Oui, donc là, on resserre sur le milieu surréaliste et comment Irene Zurkinden s'est imprégnée de ce milieu-là. Et l'on remarque que sur certains carnets, nous avons des dessins qui ne sont pas sans évoquer des scènes d'exposition surréaliste qui a eu lieu à Paris. Et notamment, dans un des carnets, on reconnaît très clairement un buste de Salvador Dali, qui est aujourd'hui, dont une version est conservée au MAMCO à New York, une autre dans une collection privée à Bâle. Et ce buste avait été exposé à la galerie Pierre Coll à Paris en 1933. On croit également y reconnaître Gala, la compagne de Salvador Dali, ou alors des dessins dans lesquels on a des personnages de petites dimensions perdus dans des univers infinis qui ne sont pas sans rappeler de nouveau le monde de Salvador Dali. Donc voilà pour cette deuxième salle. On a également un dessin dans lequel on peut reconnaître une version de cette fameuse table loup par Victor Brunner. Donc on sait que Irene Zurkinden a été visiter ses expositions. De là à savoir si elle représente ça de mémoire, si elle a représenté ça en étant dans l'exposition, là nous ne pouvons pas encore le définir.
Et bien gentiment, nous poursuivons notre visite à travers cette exposition consacrée à Irene Zurkinden, la Baloise. Nous entrons dans la troisième partie, dans ce troisième cabinet, qui est là réservé, qui est resserré également sur les scènes intimes et érotiques de la vie, pourrait-on dire, de Irene Zurkinden, ou alors qui proviennent des rêves de l'artiste.
Oui, absolument. Donc, dans cette salle, nous avons fait une sélection de dessins donc qui montrent l'intérieur d'Irene Zurkinden, des portraits et autoportraits, ainsi que des scènes un peu érotiques ou un peu plus crues. Donc, Irene Zurkinden, quand elle arrive à Paris, est complètement libre et découvre cette vie de grande liberté dans le monde artistique, mais aussi dans le domaine de la vie sexuelle. Elle fréquente hommes et femmes de façon complètement libre et elle les représente. Nous avons, par exemple, un dessin aquarellé dans lequel on voit encore deux femmes nues avec un collage qui montre une certaine influence surréaliste. Ce collage donc dépicte une main de femme qui pointe un couteau vers son sein. Ou encore des gros plans de sexe masculin, donc complètement aussi novateurs, qui marchent avec des bas féminins et des talons aiguilles. Ou alors des scènes qui sont pas sans évoquer Egon Schiele, des dessins aquarellés délicats représentent des femmes nues, dénudées, ou encore des femmes qui sont ensemble, dénudées, ou en présence d'hommes qui les observent ou qui participent à la vie intime. Et petit à petit aussi des scènes de couple où l'on croit reconnaître le compagnon d'Irene Zurkinden, Kurt Fenster, qui est une personne d'origine allemande et brésilienne, qui de l'Allemagne s'est rendue en France pour des questions politiques, qui était métisse, joueur de jazz, et dont Irène Zunkinden va tomber amoureux, avec qui elle va avoir deux fils, mais qu'elle ne va pas marier parce qu'elle ne, à ce moment, pour une femme suisse qui se mariait, perdait sa nationalité. Et on approche 1939, la guerre se déclare, et Irène Zunkinden va retourner en Suisse, donc elle est restée avec son compagnon, Kornfenster, mais sans se marier.
Elle a beaucoup représenté dans ses œuvres.
Oui, absolument, et on le reconnaît sur plusieurs œuvres. Ici, nous avons notre autoportrait d'Irène Zunkinden, qui est une peinture sur toile, donc une des rares peintures sur toile de l'exposition. On voit Irène Zunkinden avec son amoureux, son compagnon, Kornfenster, et un attribut qui est toujours fidèle dans certains autoportraits, ses pinceaux qu'elle garde dans ses autoportraits. Ou on a également en nu, donc il ne faut pas oublier, une femme artiste qui se peint nue, c'est quelque chose qui est inhabituel, et elle ose le faire. Donc il ne s'agit pas d'en nu, d'en modèle, c'est vraiment en autoportrait. Et là, nous avons en nu qui remonte aux années, début des années 1930. Nous avons également dans cette salle deux vitrines. Dans une des vitrines, nous avons fait une sélection qui montre des dessins ou des descriptions de son intérieur, sa table de travail, son chat. C'est quelqu'un qui, comme Léonore Fini, qui était également une amie, aime les chats. Et dans lesquels aussi, elle montre à quel point ce monde intérieur, ce monde intime, ce monde des meubles, fait partie presque de compagnons. Je cite en texte, « Les meubles qui sont ta famille voient, ils te jugent, ils se vengent, ils te fixent, ils te rendent responsable de leur défaite, ils s'imposent, etc. etc. » Et ensuite, on entre dans le monde onirique. « À l'aide de l'ombre, ils peuvent devenir monstrueux. » Et la citation continue dans ce sens-là. Une autre vitrine, la deuxième de la salle et la dernière, dans laquelle nous avons fait une sélection de scènes qui représentent des femmes nues, et aussi un dessin qui fait allusion à Man Ray, la fameuse bouche de Man Ray, que Man Ray a déclinée sous différentes façons, une huile sur toile qui est en collection privée, des photographies, des gravures, et où elle écrit, donc elle représente la bouche, elle l'a peint en rouge, et elle écrit simplement « Man Ray, je pense à vous !» point d'exclamation. Donc de nouveau, là, des carnets que l'on peut visualiser pour entrer de façon plus intime dans le monde d'Irène Zunkinden, une artiste qu'il est, à mon sens, essentiel de réévaluer en considérant ce travail graphique qui est resté invisible du public jusqu'à présent.
Quels sont les objectifs et les attentes concernant la future publication de la monographie d'Irène Zunkinden et le catalogue en ligne de la collection surréaliste du Musée d'Art et d'Histoire de Genève?
Alors, pour ce qui est de la monographie, c'est une monographie qui va être dirigée par Reto Turing et Rebecca Eigen. Ça, là, va permettre d'avoir pour la première fois une publication qui tienne en compte de tout le travail d'Irène Zunkinden et non pas de limiter son travail à la production qu'elle a faite et qui est connue essentiellement à Bâle et dans le monde suisse-alémanique, avec des peintures plus sages, des portraits, des paysages de style post-impressionniste. Je me permets encore juste un mot, c'est de souligner également le travail de recherche qui a été fait avec l'Institut d'Histoire de l'Art et de Muséologie de l'Université Neuchâtel et le travail qui a été fait avec les étudiants sous la conduite donc de ma collègue Régine Bonnefoy. Et ce travail va pouvoir être accessible pour le public avec la publication d'un catalogue en ligne, mais aussi lors du finissage de l'exposition, le 29 septembre, des étudiants vont présenter une œuvre du fonds graphique surréaliste de la collection du Musée d'Art et d'Histoire. C'est l'occasion pour les étudiants, tout comme pour le public, de venir découvrir ce très riche fonds surréaliste de la collection du musée. Donc je tiens à souligner ce travail de recherche, ce travail qui s'est fait également dans l'ombre, et également le travail qui a été fait par mes collègues du cabinet d'art graphique, mais aussi du musée d'art et d'histoire, ainsi que la scénographie et le soutien que l'on a eu de la famille avec l'estate Irène Zunkinden et la galerie Carlo Knoll à Bâle.
Pourquoi il était important d'exposer cet artiste ici à Genève?
Irène Zunkinden n'a jamais souhaité être limitée au monde bâlois. Vous savez qu'elle donc rêvait de quitter Bâle pour se rendre à Paris. Les circonstances politiques ont fait qu'elle a dû rentrer à Bâle. Donc elle a gardé toujours après des liens avec Paris. Elle a continué de voyager, etc. Mais je pense qu'il est important que Irène Sourkinden se montre non pas uniquement dans sa ville natale, mais également dans d'autres lieux. Et si Genève peut être, en guillemets, un lieu qui permette de véhiculer la fraîcheur, l'originalité de cet artiste d'origine suisse, je pense que c'est tout en l'honneur de l'artiste et de sa valorisation.
Merci en tout cas à vous, Marie-Ève Sellieu-Scherer, commissaire de cette exposition consacrée à Irène Sourkinden, l'artiste baloise qui est exposée ici jusqu'au 29 septembre prochain. Merci également à toutes et à tous et belle suite de journée sur Radio Cité Genève 92.2 FM.